Bonjour, je m'appelle Kylian Louandre, je fais des interviews pour Radio U. La dernière fois, on s'est déjà rencontrés et on a fait un interview qui n'a pas pu être diffusable au Destroc. Comment allez-vous depuis la dernière fois?
Eh ben ça va bien, on a répété, on est prêt pour ce soir.
Oui, motivé, chaud patate, on va mettre ça bien comme il faut. Non, il faudrait qu'on fasse aussi bien qu'à Destroc quand même. Parce que c'était bien aussi, c'était une sacrée soirée Destroc aussi.
Merci à vous de vous rendre à nouveau disponible pour nous. La précédente interview au Destroc avait été improvisée et la qualité de la piste audio était trop mauvaise pour être diffusée. Mais la survie de l'espace Léo Ferré est mise en péril par une décision de la SACEM, ce qui, par la même occasion, condamne ou met en difficulté de nombreux événements. Quel est votre point de vue sur ce cas?
Ben oui, effectivement, on a appris ça pareil via Facebook. Et c'est triste, hein, comme on en parlait tout à l'heure. Il y a le Mondo Bizarro à Rennes, je sais pas si ça te parle comme scène, mais c'est une salle de concert à peu près similaire en termes de jauge, qui a fermé il y a 2 ans, je crois, suite au Covid. À Nantes, il y a la scène Michelet, pareil, qui était une petite salle où il y avait pas mal de métal qui jouait, qui a fermé. Enfin voilà, c'est un petit peu la suite des événements. Malheureusement, c'est une période de crise un petit peu aussi.
Mais là, oui, c'était un problème de SACEM, je crois, ouais. Ils avaient augmenté.
La SACEM jusqu'à là, depuis, ça faisait 16 ans, je crois, qu'ils avaient un forfait fixe, et puis la SACEM a décidé de ne pas le reconduire. Ouais. Je crois que c'est ça la cause.
C'est dommage parce que pour le coup, Léo Ferré, c'est vraiment une scène mythique, on va dire, pour les petites salles qui permettent justement à des groupes, comme on disait, émergents de pouvoir se produire. C'est vrai que ce genre de salles sont importantes, je trouve, quand même. Mais ouais. Alors, on espère que ça se réglera. Je sais pas où ça en est actuellement, mais on est de tout cœur avec eux, en tout cas, pour que ça se passe.
Il y a des groupes qui sont pas à la SACEM, au pire.
Ben voilà. Ouais, quand ils peuvent récupérer quelque chose, ils sont là de toute façon.
Ouais, mais si les groupes sont pas à la SACEM,
c'est extrêmement compliqué à se battre derrière. Ouais. Moi, j'étais président d'assaut, quand ils voient un événement, ils épluchent le journal et par défaut, on paye.
C'est exactement ça. Ouais. Nous, on a eu pareil sur un truc qu'on avait organisé. On n'avait pas déclaré SACEM, les groupes n'étaient pas SACEM non plus, et puis ils nous ont quand même demandé voilà, donc bon.
Ils vous ont fait une offre que vous ne pouvez pas refuser.
Voilà, c'est ça, tout à fait,
t'as
tout compris.
Mais bon. La SACEM, qui est censée protéger les auteurs et les artistes, n'est-elle pas en train de tuer le spectacle vivant?
C'est assez complexe comme question, parce que d'un côté, c'est quand même un organisme qui permet effectivement d'être protégé au niveau des droits d'auteur, de récupérer des royalties, c'est-à-dire tout simplement de l'argent quand un titre est diffusé. Et d'un autre côté, c'est vrai que c'est assez flou. Enfin, moi, j'avais fait la démarche une fois pour la SACEM. On ne sait pas vraiment sur quoi est basé le forfait en fait, pour être inscrit. Enfin, c'est un petit peu obscur. Et je suis pas assez calé, moi, personnellement, pour...
Non, t'as des frais d'inscription une fois, en fait, c'est à vie. Après, ça augmente tous les ans, mais à l'époque où j'avais regardé, je crois que c'était encore 102. Maintenant, ça doit être autour des 110, 115, 120, je pense. Enfin, c'est dans ces eaux-là, ça augmente un petit peu tous les ans. Mais en gros, tu fais une inscription une fois. Le seul truc, c'est que le dossier est compliqué parce qu'il faut que tu fournisses des supports qui ont été commercialisés ou diffusés. Pour dire qu'en gros t'es un artiste professionnel quoi. Et c'est ça qui est compliqué parce que si genre t'as fait un album que t'as vendu que en soirée comme ça, t'as vendu 50 albums avec tes potes et tout ça, c'est un peu compliqué alors que techniquement t'as produit quelque chose donc tu es un artiste mais... Donc en fait c'est pas que c'est flou au niveau des inscriptions et tout, ça c'est très simple, c'est juste que c'est le parcours du combattant pour faire les dossiers d'inscription quoi.
Pardon, pour répondre à tes questions, non ça tue pas... Il tue pas la scène. C'est comme tout, en fait, il y a du positif et non. Et puis, mais ça reste quand même des organismes qui sont importants pour justement le but premier, protéger justement les morceaux des artistes pour éviter que derrière ce soit réutilisé, etc. C'est pour ça que tu déclares tes titres, c'est pour avoir au moins un cadenas sur tes sons pour éviter que ce soit réutilisé par d'autres
personnes. Façon de le faire, mais
c'est pour
un truc qui est d'ailleurs obligatoire, je sais même pas si on l'a fait, la BNF, il faut envoyer les enregistrements à la BNF, c'est légalement obligatoire en fait.
D'accord.
Ouais. Mais je l'ai appris il n'y a pas longtemps.
Mais ça a quoi? Il y a d'autres moyens que la SACEM, effectivement, pour être protégé.
Il n'y a pas que la SACEM qui existe.
Mais voilà, c'est un outil parmi d'autres pour effectivement que les artistes soient accompagnés dans une démarche commerciale.
Ouais, parce qu'après, tu as aussi effectivement tous les programmes d'accompagnement justement de la SACEM, sans parler du commercial pur, mais simplement de effectivement te mettre en relation avec peut-être des éditeurs, avec des choses comme ça, des choses que toi, tu n'aurais pas forcément accès seul. Ils ont des programmes d'accompagnement d'artistes, ils ont ce genre de choses. Après, pour en bénéficier, c'est pareil, à mon avis, c'est la croix et la bannière, mais ça existe, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Donc non, c'est une bonne chose quand même sur le fond. Maintenant, ouais, il y a des aspects qui sont moins cool.
Lors de notre dernière rencontre, votre concert était fini et vous avez eu un beau succès. Ce soir, on se rencontre avant votre set. Vous n'avez pas trop le trac?
Pour l'instant, non. Moi, pour ma part, en général, ça arrive vers 30 minutes avant de monter sur scène. Mais bon, ça va le faire. Hein. On s'est préparé pour, donc.
Ouais. C'est vrai qu'en fait, avec l'habitude, oui. Ça fait quelques années, je pense, qu'on joue tous les trois. Donc, on en a fait des concerts depuis. C'est vrai qu'à force, quand t'es préparé, que tu connais bien tes morceaux, c'est vrai qu'il y a... Il y a une certaine facilité quand t'arrives, tu te stresses pas vu qu'il y a le travail derrière.
En fait, le vrai stress, c'est pas le concert à proprement parler, c'est toute la technique autour.
Moi, ce que j'adore, par contre, c'est des journées comme ça où justement, y a de l'ébullition. Moi, j'adore ces journées de concert comme ça parce que, en plus, on est entre nous aussi, on voit plein d'autres gens, d'autres personnes. Le fait de rencontrer beaucoup de personnes les soirs de concert, moi, c'est un truc que j'adore. C'est ce côté sociable. Qui est vachement appréciable.
Pour moi, c'est l'aspect le plus important de la musique. En fait, c'est le partage, c'est la rencontre de gens, c'est l'aspect social, ouais, un petit peu,
tu rencontres plein de gens. C'est pas du track, c'est pas du track négatif, c'est de l'excitation, voilà. C'est une dose d'adrénaline parce qu'on est content de jouer et on est content de voir les gens prendre leur pied. Nous, c'est la récompense ultime, elle est là. Donc, c'est un bon track. C'est plus l'excitation. Ouais.
Ouais. La salle aujourd'hui est légèrement plus grande que l'espace Léo Ferré. Est-ce que vous vous préparez différemment?
Techniciens, oui.
Pour notre part, non, pas forcément. Après, c'est vrai que nous, on n'a pas eu l'occasion de bosser un jeu de SEM précis non plus. C'est vraiment nous. Pour notre part, assez dans le feeling en termes de mouvement, donc mais c'est bien aussi. Mais voilà, donc du coup, non, franchement. Puis en fait, après, eux étaient pas encore Flo et Nico étaient pas encore dans Tescom, et on avait déjà fait une date en 2018 avec l'Outblast dans cette même salle. On voit à peu près. Puis c'est un peu comme la scène au Bonjour Minuit qu'on avait fait à Saint-Brieuc. Mais c'est des scènes vachement bien, par contre, parce que là, pour ma part, j'ai de la place pour bouger, donc c'est cool. Ça fait plaisir.
One More Fix, était-ce une volonté d'écrire une suite à Just One Fix de Ministry?
Alors là, pour le coup...
Je connais même pas.
Faudrait demander à celui qui a écrit la chanson, en l'occurrence. Il n'est pas là.
Non. Alors moi, je ne pourrais même pas te dire non plus. Malheureusement, on n'a pas
là. Tu zapperas cette partie-là.
Pardon.
Mais t'auras peut-être une bonne surprise ce soir.
Il aurait fallu poser la question à Alain, tu vois. C'est lui qui a écrit cette chanson. Donc c'est lui, il aurait pu te répondre. Désolé.
Vous êtes présent sur Deezer et Spotify. Est-ce que ce type de média vous permet de mieux diffuser votre œuvre?
Les plateformes de streaming, quelles qu'elles soient, pareil, ont leurs bons et leurs mauvais aspects. Les mauvais, c'est plus concernant la rémunération des musiciens, des artistes. Mais par contre, les bons côtés, c'est qu'effectivement, tu peux diffuser ta musique, en fait. Ce qui, quand ça n'existait pas, était très compliqué parce qu'à part avoir une maison de disques, qui étaient les seuls à pouvoir te diffuser. Aujourd'hui, toi tout seul, tu prends ton abonnement, tu peux diffuser ta musique dans le monde entier, en fait. Et ça, c'est génial.
C'est beaucoup moins contraignant que... Puis même, en fait, forcément, c'est vrai que le côté physique, objet de CD... Bon, quoique maintenant, ça revient un peu, je pense, mais...
Dans le métal, oui. C'est peut-être une exception, mais t'allais dire que ça tend à disparaître. Quoi.
Voilà, et que du coup, en plus, en termes d'investissement propre à la diffusion de tes morceaux, plutôt que de faire des CD avec tout ce qui va derrière, comme nous, on peut faire, qui coûte quand même ça un peu d'argent, là, au moins, ça permet de pouvoir diffuser des sons presque instantanément à prendre l'abonnement, c'est à l'année, et puis voilà.
Après, il y a des... Enfin, en vrai, la rémunération des artistes, elle est pas bien faite, parce que c'est la répartition qui est pas bonne, parce qu'il y en a qui s'en mettent plein les poches sans rien faire. Mais quand on regarde sur le long terme, en fin de compte, un album, tu l'achètes une fois, tu veux le payer 10-15 euros, tu vas l'écouter, mais tu auras toujours payé que 10-15 euros. Tes morceaux, à chaque écoute, ils rapportent de l'argent à l'artiste. Alors c'est 0,000 centimes, mais tu te dis que bah, 30 ans après, le mec, il va continuer à payer pour écouter ta musique au final. Ouais. Alors que l'album, il l'a payé qu'une fois, quoi. Donc sur le long terme, en fait, aujourd'hui, on a une vision à court terme. Ça fait quoi, 10 ans, 15 ans que ça existe, les services comme ça, je sais plus trop. Mais dans 20 ou 30 ans, tu vois, si les trucs continuent comme ça, au final, ce sera plus rentable pour les artistes, mais sur le long terme. C'est ça qu'il faut.
Ça rappelle la vision de Metallica sur le téléchargement au début des années
2000. Napster.
Ouais, bien sûr. Mais t'as une bonne série sur Netflix qui s'appelle The Playlist et qui retrace justement l'histoire de Spotify. Si tu l'as pas vu, ça peut être intéressant, ça te permet de comprendre ce que tu suis en fait les différents acteurs de la création de cette plateforme de streaming. Et du coup, bah ouais, t'as le point de vue d'un artiste, le point de vue d'un producteur de musique, d'une maison de disques à l'ancienne, le PDG de la boîte qui lui était consommateur de musique, mais voilà, un petit peu téléchargement un peu pirate, et puis bah il a voulu voir quelque chose de plus respectueux pour l'artiste, quoi. Donc voilà.
J'ai une question à croiser avec Bloodshirts Rodeo. J'ai l'impression qu'on peut faire une sorte de symétrie opposée dans le hardcore entre vous et Bloodshirts Rodeo. Vous avez un registre chanté qui s'autorise moins de variations de guitare qui sonne plus heavy, moins rugueuse et plus libre. Est-ce une volonté artistique ou est-ce que c'est venu naturellement en fonction de vos compétences?
Là, il faudrait poser la question à Franck, pour le coup. Après, je pense qu'il y a des influences.
Sûrement une volonté artistique, je dirais. Ouais, parce qu'il y a toujours eu... pour les écritures des morceaux, c'est Franck, du coup, le deuxième guitariste lead. Et donc, Alain, anciennement, quand il était là, qui, eux, ramenaient leurs idées. Donc, Non, c'est vraiment purement... c'est volontaire, c'est recherché comme ça, dans ce sens-là aussi. Voilà. Mais actuellement, c'est ça. Après, vu que du coup, avec Flo, on verra qu'il y aura aussi ses idées. Donc, on verra à ce moment-là vers quoi on va tendre. Mais c'est vraiment une volonté artistique, du coup. Puis, au niveau du registre, c'est différent un petit peu. Ça, suivant le style aussi, je pense que Flo pourra dire mieux, mais les sonorités de guitare font aussi dans le style qu'on veut prendre, ça une certaine touche apportée au morceau. Donc ça dépend du rendu global qu'on va avoir aussi.
Depuis tout petit, j'écoute beaucoup de musique. L'année dernière, j'ai commencé à aller voir des groupes et depuis, j'ai dû en voir à peu près une quarantaine. Depuis un festival, je ne me rappelle plus le nom, j'ai fait les Vieilles Charrues aussi, le Motocultor, le Deathstroke, et là ce soir je vais en faire un autre. Et depuis que j'écoute de la musique, j'ai envie de créer mon propre groupe. Est-ce que vous pouvez me conseiller pour comment faire pour en créer un?
Non, t'as un site internet qui est vachement bien. Bon, il y en a plein en vrai, mais il y en a un. Enfin, moi, je sais qu'à l'époque, j'ai trouvé beaucoup de choses là-dessus qui s'appelle Zikinf, qui existe depuis au moins 20 ans, je crois, même plus. Et t'as beaucoup d'annonces dessus de gens, de musiciens qui cherchent à fond à monter un groupe ou de groupes qui cherchent à recruter un musicien ou, enfin voilà, de faire des formations. Et là-dessus, je pense que tu pourrais trouver ton bonheur parce que t'as tous les âges en plus. T'as des adolescents, t'as des adultes, t'as des retraités, t'as vraiment, ça va de 7 à 77 ans et je pense que tu devrais trouver ton bonheur là-dessus.
T'as aussi EasyZik, enfin c'est pareil.
Ouais, EasyZik, ouais.
Moi je me souviens que quand j'étais peut-être un peu plus vieux que toi, j'avais pas mal dans les magasins de musique. T'avais des petites annonces.
Ou les studios de répète comme ici, voilà. Par exemple. Tu vois, sur les studios de répète, dans les centres, à un moment donné, t'as des panneaux d'affichage. Ouais. Je pense que tu vas pouvoir trouver des annonces de groupes qui cherchent des musiciens. Ou toi, poser une annonce en disant, voilà, je fais tel instrument et je cherche deux musiciens avec qui monte un groupe. Ça va pouvoir se faire dans tous les lieux de diffusion de musique, après que ce soit celle de concert ou même simplement studio de répète, voilà, ou comme il dit, magasin de musique. Dans tous ces endroits-là, tu dois pouvoir trouver ou poser des annonces.
Ouais, et puis après, compose aussi de ton côté, quoi, même si t'as pas forcément de personnes avec qui jouer pour l'instant, ça viendra.
Apprends à jouer de tous les instruments.
Ouais. De la batterie.
En vrai, apprends à jouer de tous les instruments, tu fais tes morceaux, et puis à la rigueur, ça va venir tout seul. En fait, les contacts viennent en faisant aussi. Parce qu'en faisant de la musique, tu vas demander des renseignements parce que tu vas pas savoir faire un truc. Il y a un mec qui va t'aiguiller, du coup, tu vas discuter avec lui, un mec, enfin, un homme ou une femme, peu importe. Hein, il y a pas de distinction de genre là-dessus. Et tu vas discuter avec. Et lui, du coup, il va te faire rencontrer d'autres gens, il va te mettre en relation, etc. En fin de compte, ton réseau, il se crée comme ça, petit à petit, en fait.
Puis les concerts aussi, quoi. Bah, ouais, les concerts, regarde. Surtout dans le style qu'on fait, il y a beaucoup de musiciens, quoi. Parce que c'est vraiment un truc de passion, je pense, le métal. Et tu vas forcément rencontrer des musiciens qui viennent en tant que public, quoi. Donc là, faut pas hésiter, quoi. Et pas hésiter à aller vers l'autre, à rencontrer, puis poser des questions.
T'as quel âge déjà, là?
Là, j'ai 11 ans.
11 ans, ouais, bah, carrément. J'ai vu une vidéo hier sur Internet, un groupe de hardcore, le chanteur devait avoir 8-9 ans. Genre, il était haut comme ça, et il envoyait dans le micro, hein. Mais franchement, ça envoyait bien, quoi.
Comme quoi, il n'y a pas d'âge. Hein,
non, ouais, c'est pour ça, il n'y a vraiment pas d'âge, quoi. Donc, j'ai envie de dire, plus tôt tu commences, et mieux c'est.
Il y a une gamine qui joue avec Dave Grohl.
Ouais, mais. Nandi Béchel. Ouais, Nandi Béchel, ses parents derrière, par contre, pour moi, c'est une usine à gaz, les parents, ce qu'ils font avec leur fille, quoi. C'est bien parce qu'elle, du coup, elle est cool, elle fait de la musique, elle rencontre des superstars, mais d'un point de vue développement du cerveau, c'est peut-être pas une si bonne chose que ça. J'espère qu'ils mettent Léo là où il faut derrière, en tout cas, parce que tu as eu le fait de te faire dépasser par ces choses-là. Déjà, même à 20 ans, à 30 ans, t'en as qui arrivent à être dépassés par la célébrité et tout. Alors j'imagine qu'à 12 ans, j'espère qu'elle est cadrée derrière, c'est tout ce que je dis.
Après, pour ma part, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'étais plus... C'était des potes qui m'ont dit, tiens, au fait, tu joues de la basse, parce que j'en avais parlé, et puis je faisais dans mon coin, tu vois. J'ai toujours tout appris tout seul, sur le tas, je reprenais des musiques de groupes que j'aimais, tu vois, pareil aussi. Ça, pour commencer, c'est pas mal à travailler un instrument, peu importe, guitare, basse, batterie, ça peut être, voilà. Et en fait, après, moi, ça s'est fait comme ça. Ils m'ont des potes, en fait, hein, j'ai entendu que tu faisais machin, et puis en fait, ça s'est fait comme ça. Et c'est comme ça que j'ai commencé, et puis depuis 15 ans, voilà, maintenant, ça a continué. Et en fait, les projets derrière viendront, pour ma part, Tesca, c'est mon sixième projet depuis que j'ai 15 ans. Un sixième groupe, quoi, dans lequel je faisais partie. Donc, tu vois, après, si t'as la motivation et que t'aimes ce que tu fais et que t'es passionné par ça,
le tout, c'est le principe où si tu fais de la musique, par contre, t'auras pas d'autres loisirs à côté. Ouais. Ça coûte trop cher. La musique, ça coûte beaucoup trop cher.
Il n'y a pas besoin d'autre chose. Hein,
non, mais par contre, du coup, c'est bien. Ce qui est bien, c'est que pour les parents, pour les rassurer, c'est que du coup, il n'a pas le temps de faire des conneries. Du coup, parce que la musique, ça prend trop de temps et trop d'argent, de toute façon. Donc...
tu sais, à midi, oui.
Postule pour devenir jeune sapeur-pompier.
Ah, c'est bien. Mais oui.
Ça va être difficile de... Voilà, après... j'avais un collègue qui était sapeur-pompier à Paris, justement, et lui, il avait un groupe, mais oui, c'est sûr qu'après...
Ah, c'est compliqué. Ça dépend du métier.
C'est un métier quand même vachement prenant, quoi.
Oui, tout à fait.
Donc, faudra faire un choix à un moment donné.
Ah ouais. Moi, tu vois, c'était à mes 17 ans où ma mère m'a dit soit je te paye ton local de répé à l'année, soit ta licence de basket. Et je suis là aujourd'hui. Déjà. Donc, j'aurais pu continuer à faire du basket, comme je faisais depuis que j'avais 8 ans. Et il y a eu une période où vous ne pouvez pas payer les deux, bien sûr.
T'aurais dû choisir le basket.
il s'est dit, de toute façon, j'arrive pas à mettre une balle dans le cerceau, donc je vais faire de la basse plutôt.
J'étais pas trop mauvais, mais en fait, non, le côté passion musicale a pris le dessus. Du coup,
c'est puis tu fais du sport sur scène, donc voilà.
Ouais. Non, mais c'est ça. Donc voilà, après, c'est à toi de voir le chemin que tu veux te créer aussi.
Je vous en avais parlé la dernière fois, mais je fais de la guitare tout seul et de la batterie avec un professeur à Brasparts. Et est-ce que ça vous intéresserait de me poser des questions dessus?
Comment... Ça fait combien de temps que tu as commencé la guitare?
Interview croisée.
Trois mois.
Trois mois.
Merci à vous du temps que vous nous avez accordé à un moment de concert. Nous sommes dans la fosse et comme dirait Bruce Dickinson, hub the Tesca.
Merci à toi.
Merci à toi. Beaucoup.
C'est un grand plaisir.
Et puis une prochaine, hein, du coup.
Ouais.
Et à ce soir, dans la fosse.
Oui. Et on se voit dans la fosse tout à l'heure. On compte sur toi. Je te regarderai de la scène.
Oh, l'ambiance là.
Je suis vraiment sur la
pendant les Butchers, on fera des pogos ensemble.
Voilà.
Non, c'était cool, merci beaucoup.